Tout de suite, nous allons à la salle du Parlement à Delémont rejoindre François Comte pour les questions au gouvernement. Il y en a 17 aujourd'hui.
Oui, première question de Michel Chauffat, député PDC.
Pour améliorer la mise en œuvre du droit de la protection des enfants et des adultes en place depuis 6 ans. Elle a présenté des statistiques pour le moins toujours étonnantes. En effet, le Jura obtient une proportion record de personnes sous protection, soit 38 mineurs sur 1000 font l'objet de mesures de protection de l'enfant dans le Jura au 31-12-2017 contre 28 en Suisse, respectivement 42 et 27 2 ans plus tôt. Et 22 adultes sur 1000 dans le Jura contre 13 en Suisse, chiffre identique fin 2015 et fin 2017. Dans sa réponse à la question écrite numéro 2851 de Mme Anne-Lise Chapat du groupe PDC-JDC intitulée « Mesures de protection des adultes et enfants, statistiques », le gouvernement précisait entre autres qu'une première piste de réflexion devrait être explorée dans le domaine de l'action sociale en vue de redéfinir la prise en charge des personnes en difficulté. Dès lors, le gouvernement peut-il nous dire si une réflexion a été menée et s'il considère ce record comme positif ou négatif? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je cède la parole à madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, ministre de l'Intérieur.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, en préambule, il convient de préciser qu'il n'est pas possible aujourd'hui de donner une explication entièrement satisfaisante sur les causes de ce record sans procéder à une analyse qui se révèle très rapidement relativement complexe. Ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est dès que l'APEA a eu connaissance des chiffres, elle a entrepris un premier examen, mais elle n'est pas encore en mesure aujourd'hui d'en tirer de vraies conclusions. En l'état, on peut formuler l'hypothèse qu'il n'y a pas qu'une seule cause qui explique les chiffres élevés de notre canton, mais un certain nombre de facteurs. D'une manière générale, en protection de l'enfant et de l'adulte, il faut se rappeler que depuis longtemps, et ceci bien avant l'entrée en fonction de l'APEA, le canton du Jura se trouvait déjà dans le peloton de tête en termes de mesures pour 1000 habitants. Et il convient ici de dire qu'un grand nombre des mesures actuellement en cours ont été instituées par les autorités tutélaires communales. Par ailleurs, le canton du Jura est un petit canton où tout le monde se connaît, d'où un nombre très élevé de signalements à l'APEA. On a par exemple enregistré 446 signalements en 2017. On a donc probablement un système de dépistage des situations à risque que l'on peut qualifier de très performant. Et dans notre canton, chaque signalement donne lieu à un examen et en principe à une enquête et à une évaluation par un assistant social de l'APEA qui permet d'évaluer la pertinence ou pas d'une mesure de protection à prendre. Dans d'autres cantons, les APEA ne disposent pas forcément d'un secteur d'évaluation et se contentent d'un entretien avec la personne concernée. Il est donc probable que nous avons dans le canton du Jura un excellent filtre pour donner la réponse la plus opportune à chaque situation annoncée auprès de l'APEA. Si l'on prend plus spécifiquement les questions de protection de l'enfant et de l'adulte, en protection enfant, on peut tout d'abord relever dans notre canton l'absence d'un service de la protection de la jeunesse qui pourrait offrir des prestations en dehors de mandat de protection, assistance éducative ou curatelle éducative. On peut également mentionner l'instauration de curatelle de surveillance des relations personnelles lors d'une séparation par le tribunal de première instance. Ces curatelles constituent la plus grande partie des curatelles d'enfants, à savoir dans les statistiques considérées, 362 curatelles sur 505 au total. On peut rappeler enfin que certaines de ces curatelles sont parfois maintenues dans notre canton pour des durées relativement longues, alors que d'autres cantons, après 6 à 12 mois, lèvent ces mesures au motif que les parents sont en mesure de s'organiser concernant la visite. Dans notre canton, on privilégie le fait qu'il faut accompagner l'enfant et faire en sorte que les visites puissent continuer d'avoir lieu, et ceci dans les meilleures conditions pour l'enfant. Concernant la protection de l'adulte, il faut ici rappeler qu'il y a un nombre important de personnes âgées qui ne sont plus en mesure de rester à domicile et qui doivent être mises sous curatelle, car parfois personne ne peut véritablement gérer leurs affaires. Une fois la curatelle instituée, il est difficile de la lever au motif que la personne aurait pu reprendre des compétences et en règle générale, dès le moment où elle est mise, elle demeure. Ainsi, par rapport au record suisse détenu par le canton du Jura, il présente à la fois, à mon sens, des aspects positifs et négatifs. Sur le plan positif, il est la traduction du fait que nous avons un très bon système de dépistage et d'évaluation des différentes situations. L'intérêt de l'enfant dans le cadre des droits de visite et la prise en charge de nos aînés lorsque la solidarité familiale n'est pas suffisante. Sur le plan négatif, il traduit certainement l'absence de possibilité d'offrir des mesures préventives suffisantes en matière de protection de l'enfant et une image erronée de la population de notre canton. On pourrait en effet croire que la population est dans une situation plus délicate, plus précaire, plus conflictuelle aussi qu'ailleurs, ou encore que la PEA instituerait des mesures à tire-larigot, ce qui n'est de loin pas le cas. On peut relever que sur les 446 signalements reçus en 2017, 245 ont donné lieu à une décision de la PEA et 163 à un classement sans aucune mesure, le solde ayant été traité ultérieurement.
Madame la ministre, je vous prie de conclure.
En guise de conclusion, et j'arrive, Madame la Présidente, je peux vous indiquer que la PEA va bien évidemment procéder à une analyse plus fine des causes du nombre élevé de mesures et bien évidemment prendre les dispositions nécessaires pour réduire le nombre de celles-ci. Mais je tiens à répéter à cette tribune que la PEA ne prend pas de mesures pour son bon plaisir et que si le taux baissera, ça signifiera simplement que et les enfants et les adultes de notre canton vont bien, voire beaucoup mieux.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Michel Chauffat est satisfait. Pour la deuxième question orale, j'invite à la tribune Madame la députée Rosalie Beurré-Sis.
Rosalie Beurré-Sis, députée PS de Port-en-Truy pour la deuxième des 17 questions.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, en mai 2015, le gouvernement adoptait la conception cantonale de l'énergie. Ce document fixe des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Fort de cette décision, la révision des fiches du plan directeur cantonal relative à l'énergie éolienne et à la force hydraulique devenait indispensable. En septembre 2015, la fiche sur l'énergie éolienne était mise en consultation. Celle-ci identifiait des sites prioritaires, mais également des sites de réserve. Il y a une année et demie, le ministre de l'Environnement expliquait que le dossier avait dû être revu en raison d'impératifs militaires. Aujourd'hui, 3 ans après la consultation, nous nous questionnons sur l'enlisement du dossier. La sortie du nucléaire décidée au niveau fédéral et le plébiscite du peuple jurassien à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération doivent nous rappeler que le temps presse et que le climat change. Les premiers objectifs avancés dans la conception cantonale de l'énergie, fixés à l'horizon 2021, deviennent gentiment irréalistes. D'où nos questions. Le gouvernement est-il toujours convaincu que le succès de la transition énergétique passe par le développement des énergies renouvelables et peut-il nous assurer que l'énergie éolienne en fait toujours partie ? Si oui, dans quel délai le gouvernement a-t-il l'intention de présenter la fiche sur l'énergie éolienne au Parlement jurassien? Nous remercions le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Madame la députée, vous l'avez un petit peu résumé dans votre question, la fiche éolienne nécessite un travail important, un travail complexe, c'est délicat, et vous l'avez aussi dit, c'est un thème sensible. Et ceci nécessite pour l'administration, pour le gouvernement, de travailler avec sérieux, avec sérénité et surtout sans précipitation. Donc effectivement, le gouvernement a traité déjà plusieurs reprises le dossier de la fiche éolienne par rapport à différents paramètres, notamment, vous l'avez cité, les paramètres militaires qui impose certaines contraintes d'installation ou de non-installation d'éoliennes sur certains secteurs du territoire jurassien pour des raisons qui sont du ressort de secret défense. Donc même nous n'avons pas connaissance des raisons pour lesquelles à tel et tel endroit nous ne pouvons pas mettre des éoliennes. Et ceci donc maintenant débouche sur un travail qui est de plus en plus abouti, qui devra repasser auprès du gouvernement pour validation ou modification. Et sous réserve d'une décision favorable du gouvernement prochainement, nous espérons pouvoir transmettre le dossier au Parlement avant la fin de cette année.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Rosalie Beurré-Sis est satisfaite. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Madame la députée Muriel Maki-Berda.
Muriel Maki-Berda, députée socialiste de Delémont.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous avons pris connaissance il y a une dizaine de jours de la décision du Conseil fédéral de ne pas retenir le programme de troisième génération de l'agglomération de Les Montaignes, le PA3. Cette décision est regrettable pour l'ensemble du canton du Jura. On se prive quand même de 13 millions de subventionnement fédéral, mais elle ne constitue pas totalement une surprise vu les signes avant-coureurs reçus en début d'année. Les causes de l'échec temporaire du PA3 sont multiples et ne sont pas imputables à un seul acteur. Toutefois, nous nous interrogeons aujourd'hui sur le soutien apporté par le gouvernement en sachant qu'il reste encore un mince espoir d'inverser la tendance et en rappelant qu'il reste le seul interlocuteur, l'interlocuteur privilégié avec la Confédération dans le cadre des projets d'agglomération. Notre interrogation est légitime car après un courrier du gouvernement à l'Office fédéral du développement territorial envoyé en fin d'année passée qui rappelait maladroitement que le canton n'avait pas les moyens de sa politique d'agglomération, on apprend que ni le ministre en charge du dossier, ni un autre membre du gouvernement n'étaient présents à une réunion de travail vendredi passé avec le sénateur Claude Hesch, membre de la Commission fédérale des transports. Cette réunion hautement politique et technique devait permettre d'élaborer la stratégie du canton pour convaincre les commissions parlementaires fédérales de l'intérêt du PA3 pour notre région. L'absence du ministre en charge du dossier ou d'un membre du gouvernement dans cette séance aussi stratégique, même planifiée dans des délais très courts, nous interpelle sur les réelles volontés du gouvernement de convaincre les parlementaires fédéraux d'investir 13 millions dans le canton du Jura pour une coordination efficace des transports et d'urbanisation. C'est d'autant plus questionnant lorsqu'on sait que le dernier ministre présent à une assemblée générale de l'agglomération date de 2012. Notre intérêt est de savoir si le gouvernement se donne les moyens pour défendre ce dossier à Berne et s'il donnera les moyens à l'agglomération de réintégrer avec succès
députée,
le prochain
conclure.
Programme national qui interviendra dans 4 ans en réalisant les investissements de PA1, PA2. Notre question est donc la suivante. Que compte entreprendre le gouvernement jurassien pour infléchir la décision de la Confédération dans le cadre du PA3 et va-t-il soutenir, aux côtés du comité de l'agglomération, la réalisation des investissements du PA1 et PA2 pour ne pas prétériter le futur PA4? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre de l'Environnement.
Voilà, Madame la députée, je crois qu'avant de chercher à accuser les uns ou les autres, nous ferions mieux de travailler ensemble, et c'est ce que nous faisons avec la commune de Delémont, d'ailleurs, vous devriez être au courant, avec également l'agglomération de Delémont, avec la députée de la station aux chambres fédérales. Mais vous semblez vouloir venir à la tribune accuser un membre du gouvernement ou le gouvernement de certaines choses, et je regrette vos propos, je les trouve totalement inadéquats. Et je vous rappelle que nous travaillons étroitement, non seulement avec l'agglomération. Vous l'avez cité, il y a une séance vendredi passé à laquelle l'administration cantonale a participé, l'agglomération a participé, également une partie de la députation aux chambres fédérales, M. Hesch. Donc je ne comprends pas très bien le sens de vos propos. Je vous rappelle encore une fois que le gouvernement est très actif. Il a réagi immédiatement à la décision de non-retenue du projet de l'agglo de Delémont en contactant directement nos élus aux chambres fédérales à Berne sur place dans les heures qui ont suivi. Également, nous sommes allés avec les représentants de l'agglo défendre le dossier face à l'arrêt à Berne. Et actuellement, nous sommes très actifs avec la députation Chambre fédérale pour pouvoir essayer de réintégrer le projet de l'agglomération de Delémont dans le message qui est donc en traitement aux Chambres fédérales. Et je dois dire que le message que donne l'arrêt, donc l'Office fédéral du développement territorial à l'agglomération et au canton du Jura est quand même étrange. Puisqu'il y a 200 millions qui ont été ajoutés au paquet, il y a 0 franc qui sont attribués au canton du Jura, et cela pose la question de savoir si nous devons continuer à développer les transports publics dans l'agglomération ou revenir aux transports motorisés, puisque l'arrêt ne semble pas vouloir aider l'agglo dans ce sens.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Muriel Maquiperda n'est pas satisfaite. Pour la 4e question, j'invite à la tribune Monsieur le député Raoul Yegui.
Raoul Yegui, député indépendant de Basse-Cour, pour donc la prochaine question.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues,
Pendant des années, l'entreprise au bus jaune a touché indûment près de 80 millions de francs de subventions grâce à une opération comptable longtemps passée inaperçue. Le journal Le Temps du 21 septembre 2018 nous apprend que CarPostal rembourse 205,3 millions aux collectivités publiques suisses, que le Jura recevra 630 000 francs et que chaque canton signera d'ici à mi-décembre une convention individuelle de remboursement avec CarPostal et fera le partage avec les communes dont certaines ne recevront que quelques dizaines de centimes. Le ministre en charge des Transports, M. David Herré, indiquait le 28 février dernier que 78 millions était le montant évoqué par l'Office fédéral des Transports qui devait être remboursé à la fois au canton et à la Confédération. Alors que le canton, il y a quelques mois, estimait que le montant à rembourser était entre 500 000 et 1 million de francs pour 78 millions, on apprend que le Jura ne touchera finalement que 630 000 francs pour un remboursement total largement plus élevé, donc de 205,3 millions. Normalement, le Jura devrait donc se voir remboursé à hauteur d'environ 1,5 million. Quelle est l'appréciation du gouvernement à propos de ces montants ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le député, le gouvernement est satisfait. Le gouvernement est satisfait d'avoir obtenu des chiffres transparents de la part de La Poste et de CarPostal. Et il est satisfait également d'avoir eu une analyse faite par la conférence des directeurs des transports au niveau suisse, étayée enfin, ou consolidée par une fiduciaire qui a également pouillé tous les comptes de CarPostal et de La Poste, et de voir finalement ce montant de 205 millions qui est donc rendu aux différents commanditaires, la Confédération, les cantons et les communes. Et effectivement, nous avions évoqué au départ, nous estimions, mais c'était à la louche, un montant entre 500 000 et 1 million de francs pour le canton du Jura. En finalité, nous avons donc 2,5 millions qui sont donc finalement pour la région du canton du Jura, mais moins la part fédérale, puisque le CarPostal La Poste va rembourser donc chacun selon son financement. Donc sur ces 2,5 millions, donc il revient au canton du Jura les 627 000 francs. Et il y a encore une inconnue, monsieur le député, ce sont les 17 millions qui sont antérieurs à 2007 et pour lesquels une investigation est en cours pour savoir qui finalement avait payé ces 17 millions en trop. Il semblerait a priori que le canton du Jura n'est pas concerné, donc il y a très peu d'espoir à se faire à ce niveau-là. Mais la Poste CarPostal doit encore donc investiguer pour voir à qui elle doit rendre ces 17,2 millions. Et je terminerai en disant quand même que nous ne sommes pas satisfaits par rapport à un élément du dossier, c'est-à-dire que tous les rapports des fiduciaires mandatés par CarPostal ont été jusqu'à ce jour transmis uniquement en allemand. Donc nous attendons également d'avoir la version en français pour que les spécialistes financiers de l'administration cantonale puissent aussi en prendre connaissance avec tous les détails techniques qui nécessitent donc un document en français.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Raoul Yagui est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Madame la députée Pauline Queulot.
Pauline Queulot, députée également indépendante de Saint-Bré.
Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers collègues. Comme vous le savez, aujourd'hui commence la récolte de signatures auprès de la population jurassienne pour l'initiative populaire appelée les plaques moins chères, qui demande une baisse du prix des taxes d'immatriculation que les automobilistes jurassiens doivent payer chaque début d'année. En préparant l'initiative, le comité d'initiative souhaitait pouvoir donner à la population les chiffres concernant les montants dépensés pour les routes jurassiennes, puisque la loi jurassienne impose à l'État de n'utiliser le produit de la taxe des plaques que pour les routes et rien d'autre. Dans un souci d'exactitude, nous avons donc demandé ces chiffres au canton. On nous a rétorqué que nous n'avions pas le droit de les avoir parce que nous les demandions, je cite, « en tant que simple citoyen qui veut lancer une initiative et non en tant que député ». Suite à cette réponse étonnante, le député Yves Gigon a immédiatement déposé une question écrite afin d'obtenir ces chiffres en tant que député cette fois. Pourquoi et depuis quand refuse-t-on à un simple citoyen de lui fournir des chiffres qui sont censés être publics puisqu'il s'agit d'argent public ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à son président, Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, décidément très sollicité ce
Madame
matin.
Madame la députée, effectivement, votre initiative démarre la récolte ce matin. Je l'ai appris par votre collègue de droite. Et par rapport à votre question sur les chiffres, effectivement, vous savez très bien que la comptabilité cantonale n'est pas analytique, donc nous n'avons pas de facilité de donner des chiffres par rapport à des activités très particulières. Par contre, si ça peut peut-être vous apaiser, il y a un groupe de travail qui a été mis sur place pour définir très précisément quels sont les montants encaissés au niveau de la taxe de circulation, taxe des véhicules, et quelles sont finalement les charges liées à l'entretien des routes, à tout ce qui est lié à la route, conformément à la loi. Et nous prévoyons de vous répondre au travers de l'intervention, la question écrite que vous avez mentionnée, avec toute la précision requise, que je n'ai pas encore aujourd'hui, je dois vous le dire, mais le travail est en cours, et vous aurez des informations très précises qui, j'espère, sauront répondre à vos interrogations.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Pauline Queloz n'est pas satisfaite. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Monsieur le député Alain Lachat.
Alain Lachat, député PLR de Frugy-et-Cours.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, à l'occasion de l'inauguration de la troisième usine relais réalisée par Régiotech à Porrentruy, il a été évoqué par son président le ressenti d'une trop grande lenteur dans le traitement de la délivrance du permis de construire. Le quotidien jurassien relève, dans son article du 15 septembre dernier, qu'il a fallu patienter 3 mois pour obtenir un permis de construire pour une usine qui est la copie conforme des 2 autres. Le gouvernement peut-il nous informer si la durée et la procédure habituelles pour le traitement d'un permis de ce type ont été respectées ou s'il existe des raisons qui expliqueraient le ressenti de lenteur par le promoteur? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, effectivement, les propos qui ont été lus dans la presse ont également surpris le gouvernement, puisque, a priori, dans un tel cas de figure, il est donc prévu 1 mois, c'est le délai de publication dans le journal officiel, pendant lequel rien ne peut se passer, à part attendre les éventuels recours que nous ne souhaitons jamais. La loi prévoit ensuite 30 jours pour l'administration cantonale pour délivrer le permis à réception du dossier. Donc on arrive à 2 mois. Et effectivement, les 30 jours prévus par la loi n'ont pas été utilisés puisque l'administration a mis 12 jours pour délivrer le permis une fois le dossier complet remis. Mais c'est là que le bât blesse, je dirais, puisque le dossier à sa réception était incomplet. Des compléments ont donc dû être demandés aux requérants. Les compléments ont été demandés 4 jours après réception du dossier, donc on peut considérer que l'administration a utilisé 12 plus 4 égale 16 jours. Et s'il y a eu 3 mois, finalement, au lieu de 1 mois et 16 jours, et c'est finalement la responsabilité du requérant qui a mis ce temps-là pour compléter son dossier. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a aussi une part de responsabilité, voire une très grande part pour le fait qu'il y a eu 3 mois et pas 2 mois qui ont été nécessaires pour ce permis.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Alain Lachat est satisfait. Pour la 7e question orale, je donne la parole à monsieur le député Alain Schweingruber.
Alain Schweingruber, député PLR de Delémont.
Madame la présidente, chers collègues, madame et messieurs les ministres, on assiste depuis plusieurs semaines, respectivement plusieurs mois, à une véritable décapitation d'un homme d'État genevois, auquel il est reproché d'avoir bénéficié d'avantages indus, c'est ce que dit la loi pénale. Homme brillant, s'il en est, qui subit les conséquences d'une invitation à Abu Dhabi. Et dans le même ordre d'idée, quelques temps après, on constate qu'un conseiller d'État vaudois est entraîné dans la même foulée où on lui fait des reproches d'avoir des liens trop étroits avec un milliardaire étranger. Puis ensuite des parlementaires, femmes, socialistes, auxquels aussi on reproche de s'être fait offrir des voyages. On ne sait pas jusqu'où tout cela se poursuivre. Verra-t-on un jour d'autres cantons impliqués ? par exemple le canton du Jura, puisque cela nous interpelle. Apprendra-t-on que le président du gouvernement s'est fait offrir un bon pour un service gratuit à son vélo? Apprendra-t-on que la ministre de l'Intérieur et de la Police s'est fait offrir un bouquet de fleurs, des roses évidemment, par un quidam qui souhaiterait à terme un jour se voir faire sauter une contredanse? Apprendra-t-on que le ministre de la Santé et de l'Économie et de l'Agriculture se sera fait offrir une bouteille de damascine à l'issue d'une assemblée d'agriculteurs, ou le ministre des Sports se faire offrir un billet gratuit pour une entrée au match du HCA, ou le chef des finances une choucroute en Alsace? Je l'exprime volontairement sous le ton de la dérision, bien que le sujet soit sérieux. Des parlementaires pourraient d'ailleurs aussi être impliqués.
Monsieur le député, je vous prierai de poser votre question, s'il vous plaît.
D'évoquer cela dans la prochaine révision du Parlement. Ma question est la suivante. Existe-t-il, parce que chaque canton a ses règles, existe-t-il des règles internes dans le canton qui fixent un seuil, qui fixe des limites dans ce que les gouvernants de ce canton pourraient recevoir comme avantage ou cadeau? Je vous remercie.
Merci pour la réponse du gouvernement. Je donne la parole à son président, monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, effectivement, il existe déjà une loi, l'article 23 de la loi sur le personnel, qui définit qui interdit de recevoir des dons et des avantages en rapport à son travail. Mais l'ordonnance sur le personnel est un peu plus précise et définit finalement qu'un avantage de faible importance conforme aux usages sociaux n'est pas à considérer comme un don. Donc ça se traduit par une pratique au niveau du gouvernement qui veut que jusqu'à une valeur de 100 à 150 francs, il est considéré que le cadeau, entre guillemets, peut être accepté par le membre du gouvernement, par le ministre. Au-delà de ce montant, il y a un devoir de transparence. Et donc le ministre en question est censé d'une part informer le gouvernement, et le gouvernement à ce moment-là décide si le cadeau est rendu à la personne qui l'offre ou alors s'il est transmis au patrimoine de l'État. Et vous avez peut-être vu, je crois que c'était l'année passée, une émission de télévision qui interrogeait un de mes collègues qui avait reçu un tableau de son portrait fait par un peintre. Et typiquement c'est un exemple où un tableau peut valoir plusieurs centaines, voire milliers de francs. Et à ce niveau-là, donc, le gouvernement a été informé en toute transparence par ce ministre, qui a donc, le gouvernement a donc décidé que le ministre pouvait garder le cadeau, qui d'ailleurs, je crois, est dans son bureau, et voilà. Donc en gros, le gouvernement a donc trois possibilités, c'est soit les valeurs inférieures à 150 francs, les accepter, ou alors, si c'est au-delà, la restitution ou l'attribuer à l'État.
Merci, monsieur le président. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Alain Schwingruber est satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à madame la députée Brigitte Favre.
Brigitte Favre, députée UDC de Seignelay-Gy.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ministres, nous arrivons déjà au terme du mois de septembre. L'été laisse donc sa place à l'automne et au prochain événement cantonal connu et reconnu hors de nos frontières, qu'est la Saint-Martin. Ma modestie m'interdit de procéder à un quelconque classement d'attractivité entre chacun de ces événements, mais il me semble, ainsi qu'à un bon nombre de mes concitoyennes et concitoyens, qu'une différence est effectuée en matière de présence et d'intervention policière lors de ces événements. En effet, alors qu'à l'occasion de la Saint-Martin, présence et dissuasion semblent être les maîtres mots pour la police en nageoire, la récente expérience vécue à l'occasion du dernier marché concours met en avant les mots répression et sélection, car voyez-vous, ce sont plusieurs éleveurs qui étaient sur le chemin du retour le dimanche qui ont été pris en tenaille dans un contrôle de gendarmerie, alors que du côté de la halle des invités, rien de spécial n'a été signalé. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement édicte-t-il des directives particulières en matière de présence et d'action policière lors d'événements particuliers revêtant une sensibilité géoculturelle au niveau cantonal tels que ceux énumérés en guise d'exemple? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée, pour la réponse du gouvernement. La parole à Madame la ministre Nathalie Barthelot.
Nathalie Barthelot, ministre de l'Intérieur.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, peut-être par rapport à la question orale qui vient d'être posée, je tiens à préciser ici que le gouvernement n'émet pas de directive particulière. La police cantonale sait ce qu'elle a à faire et comment elle doit gérer la sécurité liée aux manifestations. Il y a parfois de temps à autre des informations qui nous sont données quand il y a un événement un peu particulier. De manière générale, à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit la Saint-Martin ou le marché concours, il y a une séance de préparation qui est organisée, il y a une planification qui est décidée, là il y a la rédaction d'un ordre de mission avec une désignation des effectifs, des agents mobilisés, tout en tenant compte de la situation et d'une appréciation par rapport à la dangerosité qui pourrait survenir. Et puis enfin, il y a un bilan qui est toujours fait à l'issue de la manifestation pour évaluer le service d'ordre. Par exemple, pour la visite des ambassadeurs qui a eu lieu dernièrement aux Franches-Montagnes, la police a reçu des directives de la Confédération, mais c'est parce que c'était un événement très particulier. Concernant maintenant plus précisément la question que vous posez, le marché concours, où semble-t-il certains éleveurs ont été, selon vos propos, pris en tenaille par la police cantonale. Alors je m'inscris totalement en faux par rapport à votre affirmation. Je tiens à préciser à cette tribune que c'est un membre du comité d'organisation qui a appelé la police en fin d'après-midi pour indiquer que plusieurs automobilistes ne respectaient pas le signalement de déviation mis en place. Deux agents se sont alors rendus sur place. Ils ont pu observer que certains automobilistes avaient une conduite qui était un bout inquiétante et puis ont décidé de procéder à un bref contrôle d'alcoolémie et 6 automobilistes ont été contrôlés et un seul a été sanctionné. Donc il n'y a eu strictement aucun autre contrôle à ce niveau-là. Je pense donc qu'il est erroné de dire que la police agit de manière différente suivant le type de manifestation. Le seul objectif que nous avons, c'est de concourir positivement à la réussite et au succès de ces manifestations et dans le fond, peu importe qu'elles aient lieu en Ajoie, aux Franches-Montagnes ou encore dans le district de Dlémont.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation Madame la députée ? Madame la députée Brigitte Favre est satisfaite. Pour la question orale suivante, je donne la parole à Monsieur le député Edgar Sauzer.
Edgar Sauzer, député PLR des Breuleux, pour la 9e question orale.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, certains travaux d'entretien du réseau routier et ferroviaire, ainsi que le chantier de la H18, ont, à plusieurs reprises cet été, conduit à la fermeture de l'une des deux routes principales traversant les Franches-Montagnes. Malgré une signalisation de contournement indicative, mais pas contraignante, un nombre considérable d'utilisateurs se sont rabattus sur les petites routes de campagne et ont déboulé par centaines, souvent à vive allure et avec toutes les incivilités que l'on peut s'imaginer sur ces chemins de desserte qui, pour certains, se trouvent déjà dans un état plus que précaire et qui ne sont en tout cas pas prévus pour ce genre de circulation. Habiter le long de ces axes durant ces périodes devient dangereux. Sachant que le chantier de la H18 est loin d'arriver à son terme et qu'il va certainement encore à plusieurs reprises occasionner la fermeture de cet axe, je demande au gouvernement s'il ne serait pas possible de rendre les déviations contraignantes et d'entente avec les communes concernées de limiter la circulation sur ces petites routes de campagne aux seuls riverains pendant ces périodes. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre, David Herret.
Madame, Monsieur le député, oui, c'est possible. Il est possible d'interdire le trafic de transit et pendant ces périodes de déviation, effectivement, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien le réseau routier, notamment les raccourcis. Et je sais très bien de quel tronçon, à quel tronçon vous pensez. Et effectivement, lorsqu'il y a des déviations, donc il y a publication au journal officiel, il y a une foreroute qui est diffusée, il y a des panneaux à l'avance qui sont posés pour informer les gens, et il y a ensuite un balisage orange qui permet de dévier les gens correctement. Et certains prennent les raccourcis, ce qui semble déranger non seulement les riverains, mais également mettre en péril finalement la durabilité du revêtement qui n'est pas toujours le plus résistant dans ces petits chemins de, ou ces petites routes de raccourci. Donc, au moment où la publication a lieu, les communes concernées peuvent contacter le service des infrastructures et demander à ce qu'une interdiction provisoire du trafic de transit soit mise en place. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire au travers des communes concernées, c'est qu'elles s'adressent immédiatement dès la publication auprès du CIN pour pouvoir remédier aux problèmes que vous évoquez.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ? Monsieur le Député Edgar Sauzer est satisfait. Pour la 10e question, je cède la parole à Monsieur le Député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député PCSI de Montfaucon.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les Ministres, la solidarité confédérale mise à mal. Appliquant des concepts ultralibéraux qui mettent à mal les principes de solidarité confédérale ayant prévalu jusqu'ici, la politique actuelle décidée par nos élus aux chambres et approuvée par le Conseil fédéral remet notablement en cause la capacité des régions décentralisées à bénéficier de prestations et de services répartis jusqu'ici sur l'ensemble du territoire suisse. Force est de constater que nos grandes régies fédérales, bien que travaillant sous le couvert d'un mandat de services publics, n'ont tout simplement plus l'obligation d'assumer des prestations jugées non rentables dans les régions périphériques. Suppression, restructuration, profit sont les mots qui dictent notre quotidien et remodèlent notre pays et notre canton. Si l'on ajoute à cette triste constatation le futur impact négatif qu'aura immanquablement sur nos finances le projet fiscal 17, et si l'on prend en compte les intentions déjà déclarées de cantons riches à ne plus vouloir contribuer à hauteur actuelle au fonds de péréquation, nous pouvons facilement déduire que nous devrons lutter afin de conserver nos acquis. Au vu de ces constatations, et imaginant bien que le gouvernement partage ses préoccupations, qu'envisage-t-il afin de faire respecter ces principes de solidarité confédérale qui sont indispensables pour le Jura, mais aussi pour d'autres cantons, afin de garantir notre avenir, notre droit d'exister et de prospérer au sein de la Confédération ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, si le gouvernement partage en grande partie vos préoccupations, monsieur le député, il n'en partage pas tous les propos que vous avez tenus ici à cette tribune qui sont extrêmement alarmistes et pessimistes. Le gouvernement a plutôt l'habitude d'être optimiste et essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent, mais nous sommes d'accord avec vous que la situation actuelle est difficile et que nous nous battons tous les jours sur le plan fédéral, dans le cadre de nos conférences respectives, au niveau de la conférence des gouvernements cantonaux, avec nos parlementaires fédéraux, avec des contacts directs qui nous sont offerts en travaillant dans ces conférences intercantonales, en particulier le fait que je puisse présider la conférence des directeurs des finances me donne accès peut-être plus facile à certains chefs d'office fédéraux, et nous ne manquons pas toutes et tous, nos collègues et les parlementaires fédéraux, d'intervenir auprès du Conseil fédéral et de l'administration pour mieux tenir compte des situations telles qu'elles se présentent. Ce qui est important de dire pour nous, c'est que il y a quand même le vieil adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc il faut déjà qu'on commence par se prendre en main nous-mêmes, que nous fassions tout ce qui est possible nous-mêmes pour nous en sortir. Et puis ensuite, c'est vrai que notre situation fait que nous ne pouvons pas rivaliser avec un certain nombre de cantons dont les structures économiques ou la situation géographique ou différentes problématiques, je dirais démographiques, sont plus favorables que nous. Et la péréquation financière fédérale joue à ce titre un rôle extrêmement important. Et c'est vrai que c'est le prochain dossier, le prochain gros dossier qui nous occupe déjà depuis plusieurs années et qui va continuer de nous occuper, que ce soit au niveau de la conférence des gouvernements cantonaux, parce que là, si on constate qu'au niveau fédéral, il y a une volonté d'être peut-être moins généreux vis-à-vis des cantons, je dois reconnaître ici, et je l'ai déjà dit, je ne comprends pas l'attitude d'un certain nombre de cantons bénéficiaires de la RPT, qui sont pour certains guère plus riches que nous, qui baissent les bras, ne se battent pas jusqu'au bout, puisque vous savez que nous étions trois cantons à nous opposer au projet élaboré, soi-disant de compromis élaboré par la conférence des gouvernements cantonaux, remis au Conseil fédéral, et qui va arriver à la conclusion que tous les cantons contributeurs à la RPT vont gagner quelque chose, et tous les cantons bénéficiaires de la RPT vont perdre quelque chose. Et là, nous étions trois cantons à nous opposer, nous nous opposons encore et toujours les trois mêmes cantons, c'est le Valais, c'est le Fribourg et c'est Jura. Donc nous allons continuer de nous battre, mais c'est vrai que c'est difficile, la partie n'est pas gagnée, mais nous continuons d'exercer la pression que l'on peut sur les parlementaires fédéraux, d'autres cantons en particulier, pour essayer de sortir dans la meilleure situation de cet épisode qui sera effectivement douloureux, douloureux pour le fédéralisme aussi. En ce qui concerne la future réforme de l'imposition des entreprises, il faut surtout le considérer que seul on ne peut pas rester sans rien faire. On y reviendra bientôt puisque le gouvernement va mettre la dernière main à son avant-projet qu'il soumettra en consultation prochainement, qui certes va pendant quelques années voir un manque à gagner pour les finances publiques, mais qui devrait par la suite permettre de conserver des emplois, conserver des entreprises, donc conserver aussi la substance fiscale dans les caisses des collectivités publiques, qu'elles soient cantonales ou communales. Donc nous nous battons tous les jours pour faire en sorte que le Jura soit considéré comme il doit l'être au sein du concert des cantons de la Confédération.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ? Monsieur le Député Vincent Hénard est satisfait. Pour la 11e question, j'invite à la tribune Monsieur le Député Rémi Meury.
Rémi Meury, député CS Pop de
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les primes de caisse maladie augmenteront l'année prochaine, comme chaque année en fait. On entend pourtant certains politiques se féliciter de que cette hausse soit moins importante que d'habitude. Le très progressiste conseiller fédéral en charge du dossier s'attribue ce qu'il considère être un succès. Il oublie évidemment que le pouvoir d'achat des citoyens sera une fois encore réduit, et comme nous le savons, dans le Jura, de manière plus importante qu'ailleurs. Ce moment d'autosatisfaction déplacé et passé, les questions restent les mêmes sur les moyens à mettre en œuvre pour endiguer cette hausse constante des coûts de la santé. Mais en plus de ces traditionnelles questions sans réponse, une nouveauté a vu le jour cette année. Personne ne sait comment les coûts et les augmentations de primes qui en résultent ont été calculés. C'est l'enfumage intégral. Notre ministre de la Santé, sur les ondes de la radio locale ce lundi, n'a pas réussi à expliquer la nouvelle méthode de calcul. Forcément, elle ne lui était pas connue. Ainsi, les responsables politiques cantonaux de la santé, car c'est valable ailleurs, sont maintenus dans l'ignorance quant aux règles qui président désormais au calcul définissant les primes pour l'année suivante. Pourtant, le système de santé en Suisse a autant une responsabilité cantonale que fédérale. L'Office fédéral de la santé publique tient clairement les cantons à l'écart des combines qu'il organise avec les assureurs qui imposent leurs nouvelles primes. Et l'on ferme les yeux dans un même temps sur la préservation des réserves suralimentées des assurances, notamment par des centaines de millions qu'elles ont perçues entre 2016 et 2017, 800 millions selon la Schweiz am Wochenende. Face à ces calculs incompréhensibles pour tout le monde, mais dont les effets sur les finances des citoyens, mais également sur les finances cantonales ne sont pas négligeables, le gouvernement entend-il faire part de sa colère aux autorités fédérales dites compétentes en la matière et exiger avec d'autres cantons qui se manifestent déjà dans ce sens que la transparence devienne la règle et que les cantons soient désormais plus étroitement et plus rapidement associés aux travaux de l'Office fédéral qui mène à la fixation des primes.
Merci, Monsieur le Député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le Ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre en charge notamment de la Santé.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le Député, dans le domaine de la santé, il y a peu de place pour être réellement satisfait ces dernières années. Donc on peut accepter ce petit moment d'autosatisfaction de notre conseiller fédéral, bien que les chiffres qui nous aient été communiqué dimanche pour le canton, lundi à 10h pour la population et la presse, ne sont encore aujourd'hui pas expliqués de la part de l'Office fédéral, et le canton du Jura a de la peine à s'y retrouver dans l'augmentation de 2,4% qui a été communiquée, qui aurait été de 3,7% selon l'ancien calcul, pour une moyenne de 2,7% au niveau suisse. L'ancienne méthodologie prenait effectivement la prime adulte de base avec franchise minimale, et la nouvelle méthodologie prend la moyenne de l'ensemble des modèles et de l'ensemble des primes avec ou sans franchise, qui semble intellectuellement plus juste pour évaluer l'augmentation, mais qui en devient par sa complexité tout simplement incompréhensible. Notre, quelque part, indignation, qui fait aussi partie de l'expression d'un certain ras-le-bol, ou même d'un ras-le-bol certain, se repose principalement sur le fait que dans le premier semestre 2018, nous observons une diminution effective des coûts de la santé pour la République et Canton du Jura de l'ordre de 3,4%. Donc dans la consultation que l'Office fédéral de la santé publique a fait concernant les primes, nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des primes au niveau du canton du Jura. Il nous semble que actuellement, la transparence de la part des assurances ou la demande de transparence qui devrait être faite par l'Office fédéral de la santé publique n'est encore pas la règle au niveau de la Confédération. Malgré la loi spécifique, la loi sur la surveillance qui est entrée en vigueur depuis 2 ans. Nous n'en voyons malheureusement encore pas les effets. L'Office fédéral de la santé publique se contente de nous transmettre, de jouer quelque part, comme je l'ai dit, le rôle de facteur, et de nous transmettre les chiffres des assureurs sans nous les expliquer, d'où notre indignation. Mais vous avez raison, nous continuerons d'intervenir auprès de la Confédération. Nous allons notamment écrire à l'Office fédéral de la santé publique pour qu'il nous explique, qu'il nous démontre cette augmentation avec les chiffres qu'il a à disposition. Et en fonction de sa réponse, nous envisagerons peut-être d'autres manières de procéder.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ?
Satisfait.
Monsieur le Député Rémy Meury est satisfait. Pour la 12e question, j'invite à la tribune Monsieur le Député Fabrice Maca.
Fabrice Maca, député suppléant PS de Coux.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question porte sur le même sujet que la question précédente, avec une question un peu différente, c'est pourquoi je me permets de la poser. Année après année, les annonces d'augmentation des primes des caisses maladies font leurs malheureuses apparitions à la fin septembre. Ce lundi 24 septembre 2018, et pour ses 40 ans, la République et Canton du Jura auraient pu espérer de meilleurs vœux d'anniversaire. En effet, c'est une hausse moyenne de 2,4% qui touchera les citoyens de notre canton. Mais cette hausse est tronquée par un nouveau système de calcul, pour le moins tardif dans son annonce, autant qu'incomparable avec les années précédentes. En effet, si la hausse moyenne suisse est annoncée à 1,2% pour 2019, elle aurait été de 2,7% avec l'ancienne méthode de calcul, soit un peu plus du double. Nous pouvons donc imaginer, et ça a été confirmé par le ministre, que la hausse des primes des Jurassiennes et Jurassiens aurait plutôt été de l'ordre des 4% et non des 2,4% avec l'ancien calcul. Cette nouvelle augmentation est totalement injustifiée au vu des chiffres du premier semestre 2018 qui révèlent une diminution des coûts de la santé dans le Jura de moins 3,4%. Une fois de plus, le système actuel démontre ses failles et ses limites avec des assurances et des assureurs et leurs lobbies qui font régner leurs lois. Et ceci au nez et à la barbe des assurés qui n'ont d'autre choix que de payer les factures. Car il faut mettre cette hausse moyenne de 2,7% de l'ancien calcul en comparaison avec un autre chiffre très parlant. Contre ces 2,7% d'augmentation, les salaires ont augmenté en moyenne de 0,38% en Suisse l'année dernière. C'est donc une nouvelle perte du pouvoir d'achat que les citoyens suisses et surtout jurassiens devront avaler sans pouvoir la contredire. Ce système de plein pouvoir des caisses maladies et de leur lobby a assez duré. Il est grand temps d'étudier d'autres pistes. Ma question est donc la suivante. À part s'indigner, quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il entreprendre aux côtés des autres cantons pour lutter contre le système actuel complètement opaque et inique? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Guerbet.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je l'ai dit, monsieur le député, l'indignation est également une réaction, mais je suis d'accord avec vous, elle ne doit pas être la seule réaction du gouvernement jurassien ou du responsable du département de la santé de la République et canton du Jura. Évidemment, nous intervenons en direct auprès de l'Office fédéral de la santé publique, nous intervenons en direct quand il est possible également auprès du conseiller fédéral lors de nos rencontres annuelles au sein des différentes conférences spécialisées que sont au niveau roman la classe et au niveau suisse la CDS, pour donner des abréviations incompréhensibles pour le public qui nous écoute. Je pense que ce sont des plateformes importantes car nous discutons de ces différentes thématiques, nous discutons des possibilités et des mesures à prendre au niveau fédéral. Force est de constater que le système de santé suisse, et vous le savez, est extrêmement complexe, qu'une mesure n'est pas suffisante pour régler le problème de l'augmentation des coûts de la santé. Le canton du Jura n'a pas énormément de marge de manœuvre au niveau du canton pour intervenir sur ces différents coûts. Par contre, dans la marge de manœuvre qui nous est laissée, nous agissons, nous prenons des initiatives. À l'exemple des États généraux de la santé, dont le rapport sera publié prochainement, je crois qu'il est important également de signaler que pour gérer les coûts, il faut avoir une vue d'ensemble sur le système de santé. Nous avons introduit une liste de prestations qui favorise notamment le recours aux prises en charge ambulatoires à l'hôpital. Vous serez prochainement un nanti du message concernant l'adhésion à CARA en lien avec le dossier électronique qui va également amener quelque part de la transparence dans tout le système. On poursuit évidemment les réflexions sur le développement de réseaux jurassiens de santé et là nous devons fédérer l'ensemble des différents prestataires de soins au niveau cantonal pour qu'ils soient en réseau, pour qu'ils travaillent davantage l'un avec l'autre. Nous avons également mis en consultation le concept cantonal de médecine d'urgence et de sauvetage car en parallèle de l'évolution des coûts, les techniques évoluent. Les processus évoluent et pour, je dirais, une enveloppe constante, nous devons continuer de garantir à la population jurassienne une sécurité sanitaire, notamment dans les cas d'urgence. Dans ce cadre-là, vous avez également décidé de la nouvelle organisation au niveau de la CASU 144. Nous avons également lancé une étude sur l'état des lieux de la santé au niveau du canton du Jura. On entend souvent des chiffres. Vous en donnez, j'en donne. Je crois qu'il est important que l'on clarifie ces différents chiffres, qu'on soit d'accord sur ces derniers pour réellement définir des mesures concrètes, utiles, efficaces et surtout des mesures qui puissent être mises en œuvre au niveau du canton du Jura. Vous le voyez, le chantier est énorme. Il y a des possibilités. Elles sont certes limité au niveau des effets au niveau du canton du Jura, mais le gouvernement n'est pas inactif dans ce dossier extrêmement complexe.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Fabrice Maca est satisfait. Pour la 13e question orale, j'invite à la tribune monsieur le député Lionel Montavon.
Lionel Montavon, député UDC suppléant de Courselon.
Madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Le 23 juin prochain, nous fêterons toutes et tous, en notre qualité de jurassiennes et de jurassiens, nos 40 ans de souveraineté. La presse l'a d'ailleurs déjà rappelé. Il s'en est passé des choses et nous avons vu notre canton mûrir. Les traits de son visage se sont définis, notamment par les différents profils de notre population, d'une part, mais aussi à l'image de la représentation des sensibilités politiques qui siègent aujourd'hui dans ce Parlement, d'autre part. Afin que chaque Jurassienne et chaque Jurassien puisse se reconnaître lors de ces fameuses festivités, et dans le but de désamorcer une hypothétique controverse à l'image de celle qui s'est invitée à l'occasion de la dernière fête du peuple, le gouvernement entend-il s'assurer que toutes les sensibilités politiques y seront associées, ou tout du moins seront préalablement nanties du programme des festivités prévues? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, son président, monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député, effectivement, il y a eu une annonce, donc, comme quoi des festivités marquant le 40e anniversaire de l'entrée en souveraineté auront lieu le week-end du 23 juin 2019. Ça, c'est l'annonce officielle. Au niveau du contenu des festivités, il y a un groupe de travail interne à l'administration qui est en train d'élaborer le programme de ces festivités. Mais bien évidemment qu'il y aura probablement deux volets. Un volet officiel avec très probablement une invitation qui sera transmise au Conseil fédéral ainsi qu'aux 25 autres confédérés qui donc pourront participer de façon certainement très joyeuse, sous le soleil, à des festivités juste merveilleuses. Il y aura un deuxième volet où nous souhaitons que toute la population dans son ensemble, sous toutes ses diversités, puisse participer à ces festivités, puisse également marquer le coup de ces 40 ans anniversaire du canton du Jura. Donc c'est donc sous cette forme-là qu'il est prévu d'organiser ces choses, et il est surtout prévu une communication du programme officiel ou en détail à la fin de cette année, voire début 2019. Donc à ce moment-là, vous aurez toutes les informations, le lieu, le programme, qui fera quelle activité, quelle animation, quelle festivité. Donc soyez un tout petit peu patient et j'espère que vous serez content de voir ce qu'on vous prépare.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Lionel Montavon est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite monsieur le député Frédéric Lovy à la tribune.
La question a déjà été posée, madame.
La question a déjà été posée. Nous passons donc à la 15e question orale et j'invite monsieur le député Yves Gigon à la tribune.
Yves Gigon, député indépendant de Courgenay.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, chaque année, le tribunal cantonal commande des livres pour une dizaine de milliers de francs, notamment à trois librairies du Jura, une par district. Depuis 2014, la librairie du pays à Port-en-Truy, dont le directeur est Laurent Schafter, a vu ses commandes baisser drastiquement. Bien plus, en 2017, au premier semestre 2018, zéro franc de commandes du tribunal cantonal. Depuis 2012 et notamment 2014, Laurent Schafter avait poussé un coup de gueule et mis en cause l'impartialité du tribunal cantonal, comme quoi cela date, dans l'affaire de l'élection à la mairie de Port-en-Truy. On a du mal à ne pas penser que l'exclusion comme partenaire de la librairie à Joulotte par le tribunal cantonal ne vise pas à se venger de la librairie Le Pays et de Laurent Schafter et de commettre un règlement de compte, et cela avec de l'argent public. Il est utile de rappeler l'article 312 du Code pénal parlant de l'abus d'autorité. Les membres d'une autorité, les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou dans le dessein de nuire à autrui, ont abusé des pouvoirs de leur charge, pourront être punis d'une certaine peine. Face à ce constat et à la suspicion évidente de vengeance et de règlement de compte du tribunal cantonal vis-à-vis d'un commerçant à Joulot avec de l'argent public, ma question est la suivante. Que va faire le gouvernement pour rétablir la vérité dans cette affaire et faire cesser cette pratique scandaleuse si les faits sont avérés qui pourraient relever du pénal? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, ministre de l'Intérieur.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, donc monsieur le député, vous avez été aussi rapide que l'éclair parce qu'à peine la réponse à la question écrite que vous aviez posée concernant les commandes du tribunal cantonal était-elle sortie, qu'immédiatement vous posez une question orale pour compléter celle-ci. peut-être de prime abord vous dire que je ne vois aucun lien de concomitance entre la situation qui a eu lieu à Porrentruy et les commandes à la librairie du pays. Je tiens à rappeler ici qu'à la fois la commission de gestion et des finances et la commission de la justice ont été saisies de la situation et que et l'une et l'autre commission n'ont pas estimé opportun de donner suite. Selon les explications qui m'ont été données, la question de la diminution des commandes était plutôt liée à la baisse des prestations générales, que ce soit au niveau des délais, des prix et en parallèle de cela, il faut aussi rappeler que les relations entre les autorités judiciaires et le libraire se sont également dégradées suite à des demandes incessantes de pourquoi je n'ai pas de commande pour ma librairie, ce qui nous a conduit à une situation de blocage que vous avez indiquée. Voilà, l'eau ayant quelque peu coulé sous les ponts et les esprits s'étant aussi un peu apaisés, je vais voir dans quelle mesure les autorités judiciaires pourraient retenter l'une ou l'autre commande, quand bien même, je le rappelle ici, on parle de 80 livres commandés pour une somme totale de 11 000 francs.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon n'est pas satisfait. L'heure des questions orales est écoulée. Deux questions n'ont pas pu être posées. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour.
Voilà, c'est donc la fin de cette séance des questions orales que vous pourrez retrouver dans le courant de la journée sur notre site internet rfj.ch. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci François, excellente journée à vous aussi.